Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir. Opération délicate au large de Calais et de Dunkerque. Cette nuit, 31 migrants ont été secourus et ramenés sur la côte française. Le récit d'Audrey Tison. Nous reviendrons aussi sur cet échange de prisonniers en début d'après-midi entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes. Signe d'un possible regain de confiance entre les deux parties, nous dira Jean-Didier Revoin. 365 jours de Bolsonaro. Le président brésilien était porté au pouvoir il y a un an. Anne Vigna nous dressera le bilan entre défense de dictature et attaque de la presse. À Taïwan, l'élection présidentielle se profile. Dernier débat télévisé ce soir entre les trois candidats. Et c'est la présidente sortante, bête noire de Pékin, qui tire son épingle du jeu. Et puis, comment empêcher les zones urbaines d'empiéter toujours plus sur la campagne? Le gouvernement affiche l'objectif zéro artificialisation à terme, car oui, la France peut me faire. 31 migrants secourus dans la Manche. Aujourd'hui, ils tentaient de rejoindre les côtes anglaises à bord de deux embarcations. C'est ce qu'indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Une première opération de secours a été lancée en pleine nuit, Audrey Tison.
Première alerte à 2h du matin. Une embarcation est en difficulté au large de Calais. Un patrouilleur basé à Boulogne-sur-Mer prend la mer et retrouve ce petit bateau. À bord, 11 personnes, dont 2 enfants en bas âge. Ils sont ramenés sur la côte peu après 4h. Mais le bateau patrouilleur ne restera pas longtemps à quai. Nouvelle alerte à 6h du matin. Une autre embarcation légère est en difficulté. Plus à l'est, au large de Dunkerque, 20 migrants sont récupérés, ramenés au port de Calais à 8h. Ces migrants souffrent d'hypothermie. Ils ont été prise en charge par le SAMU et la police aux frontières. Des sauvetages comme ceux-là, il y en a quasiment toutes les nuits, précise Marie Aversan, porte-parole de la préfecture maritime. Des conditions météo difficiles à évaluer depuis la côte, certains prennent parfois de gros risques, tentant par exemple de traverser à la nage. En octobre dernier, 2 jeunes Irakiens ont été retrouvés morts sur une plage au Touquet.
Et ce sont plus de 2560 migrants qui ont été secourus dans la Manche depuis le début de l'année. En Ukraine, un échange de prisonniers de grande ampleur aujourd'hui. Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est ont achevé en début d'après-midi cet échange de 200 prisonniers. Tout à l'heure, Angela Merkel a jugé positif cet échange, tout comme Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. L'événement marque en tout cas une désescalade dans le seul conflit actif d'Europe, Jean-Didier Revoin.
76 combattants loyalistes détenus dans le Donbass ont été remis à Kiev. Les autorités ukrainiennes ont, elles, libéré et renvoyé chez eux 124 séparatistes. C'est la première fois depuis 2 ans qu'un tel échange se produit. Preuve que les choses ont bougé depuis l'arrivée de Volodymyr Zelensky à la présidence de l'Ukraine. Comme cet échange fait suite à un engagement pris à Paris début décembre lors du sommet au format Normandie, cela démontre qu'en plus de se parler, les parties ont recommencé à se faire confiance. Selon certains observateurs, c'est en raison de ce manque de confiance qu'aucun progrès n'avait été constaté depuis 2 ans dans la mise en œuvre des accords de Minsk, qui reste pour la Russie le seul moyen de résoudre la crise ukrainienne. Pour l'heure, les autorités russes se gardent de commenter la nouvelle, de peur de faire de l'ombre aux représentants de Donetsk et de Lugansk, qui étaient eux directement impliqués dans ces négociations. Il s'agit de leur donner un poids suffisant pour aborder dans l'avenir la question des modalités du statut spécial du Donbass ou encore celle de la tenue d'élections dans les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Le succès de cet échange de prisonniers peut donc en appeler d'autres, mais pour y parvenir, le chemin reste long et sinueux. À cet égard, la confiance sera l'un des moyens de lutter contre ces écueils.
Jean-Didier Revoin pour France Culture. L'attaque contre la résidence d'un rabbin près de New York est un acte terroriste. Déclaration ce dimanche du gouverneur de l'État. Ils veulent imposer la peur, ils sont motivés par la haine, a martelé Andrew Cuomo. Hier soir, cette résidence a été ciblée par une attaque à l'arme blanche lors d'une fête religieuse. 5 personnes ont été blessées. Et selon une association juive, 2 seraient dans un état critique. Que retenir de la première année de l'extrême droite au pouvoir au Brésil? Comme le craignaient ses opposants, 1 an exactement après son élection, le bilan est bien mauvais pour les droits de l'homme. Jair Bolsonaro a défendu les militaires, y compris les dictatures, attaqué violemment la presse et obtenu une plus grande circulation d'armes au Brésil. Anne Vigna.
Jair Bolsonaro a bien rempli une promesse phare de sa campagne et assoupli le droit de posséder des armes. Et les spécialistes comme Raphaël Alcadipani, chercheur au Forum pour la sécurité publique, ont toujours alerté sur les conséquences de cette décision.
À partir du moment où ces armes commencent à être acquises, elles vont très vite générer de nombreuses tragédies, car les études scientifiques montrent que plus la population est armée et plus le nombre d'homicides et de suicides augmente.
Autre constance du président, la défense de la dictature militaire. Le 31 mars dernier, les Brésiliens vont manifester, outrés d'avoir entendu Jair Bolsonaro qualifier les violations de la dictature de petits problèmes.
Ce que Bolsonaro appelle des petits problèmes, ce sont la torture, les assassinats, les disparitions forcées, l'augmentation de l'inégalité sociale. En réalité, ce sont les plus importants problèmes d'aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des petits problèmes.
Toute l'année, le président a été en guerre contre la presse et a préféré s'exprimer sur Twitter avec une moyenne de 10 tweets par jour. Jair Bolsonaro cherche à couper les vivres au journal La Folia de São Paulo, qui a publié des reportages sur son fils aîné, enquêté pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Des reportages que le président risque pourtant de lire à nouveau en 2020.
Allez, direction Taïwan maintenant, dernière ligne droite avant la présidentielle, ce sera le 11 janvier. Avant ça, dernier débat télévisé ce soir entre trois candidats. C'est Tsai Ing-wen, la présidente sortante, qui caracole en tête des sondages. Elle revient pourtant de loin, Stéphane Pombrin.
Les Taïwanais la trouvaient froide et sans charisme. Ils critiquaient volontiers sa politique. Il y a un an, ils avaient même durement sanctionné sa formation, le Parti démocrate progressiste, lors des élections municipales. Mais depuis quelques mois, Tsai Ing-wen a réussi un spectaculaire retour. Elle devance aujourd'hui de 28 points son principal adversaire dans les sondages, le candidat du Kuomintang, Ran Kuo-yu. La présidente en exercice sera la dernière à prendre la parole. Ses arguments, toujours les mêmes. Taïwan est indépendante de facto et il est hors de question d'un quelconque rapprochement avec la Chine. Plus de 6 mois de manifestations à Hong Kong ont mis à mal le principe que Pékin voulait imposer à Taïwan, un pays, deux systèmes. Ce slogan consiste à faire cohabiter sous la bannière de la République populaire de Chine les régimes communistes et capitalistes. Un principe que rejettent en masse les Taïwanais, 3/4 d'entre eux y sont opposés selon un récent sondage. C'est le cas notamment des jeunes qui traditionnellement votent plutôt pour le Parti démocrate. Ils seront 1 million à se rendre aux urnes pour la première fois le 11 janvier prochain. Des votes qui devraient assurer une large victoire à Tsai Ing-wen et provoquer la colère de Pékin.
Les précisions de Stéphane Pombrin à Pékin pour France Culture. Et puis les autorités sanitaires dressent ce dimanche le bilan des ravages d'Ebola en République démocratique du Congo. Et le constat est alarmant. Depuis le début de l'épidémie en août 2018, le virus de la fièvre hémorragique a déjà contaminé plus de 3000 personnes. 2000 sont décédées. La mobilisation syndicale se poursuit dans les raffineries françaises contre la réforme des retraites. Une assemblée générale des syndicats doit se tenir demain à Grand-Puy, c'est en Seine-et-Marne. La semaine dernière, les syndicats annonçaient la décision de la mise à l'arrêt de cette raffinerie, tout comme celle de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône. La grève encore et toujours chez les cheminots. Pour le 27e jour consécutif, les transports seront très perturbés demain. Un TGV sur 2 circuleront, un Transilien et un Intercité sur 4, 4 TER sur 10. La RATP, elle, note en revanche une amélioration significative côté métro. Seules les lignes 7 bis et 13 resteront fermées toute la journée. Et pour la première fois depuis le 5 décembre, le trafic du RER A et du RER B sera assuré une grande partie de la journée. Empêcher les villes de rogner davantage sur la campagne. C'est l'objectif zéro artificialisation nette à terme affiché par le gouvernement. Il s'appuie notamment sur un rapport publié à la mi-décembre par le Commissariat général au développement durable. Il faut dire qu'en presque 40 ans, les terres dites artificialisées ont fait un bond de 70%. Une situation préoccupante, d'autant que la France est en retard par rapport à d'autres pays, Amandine Sanchez.
Du chemin reste à faire, car la France est moins bon élève que ses voisins allemands ou néerlandais. Quels sont donc les véritables dangers de cette artificialisation?
Par exemple, la transformation d'un champ en une zone commerciale avec de grands parkings goudronnés. Ça va détruire la biodiversité qui était présente dans les sols et sur les sols. Et ça va également avoir des impacts sur les écoulements d'eau et donc accroître le risque d'inondation, comme on a pu l'observer dans un certain nombre de zones du sud-est de la France récemment.
Julien Fosse est directeur adjoint du département développement durable et numérique de France Stratégie, rattaché au ministère de l'Intérieur. Il est à l'origine du rapport Zéro artificialisation nette de juillet dernier. Et pour lui, des solutions concrètes existent.
Faciliter, par exemple, la construction des tâches supplémentaires sur des logements ou des immeubles qui sont déjà construits, favoriser les petites copropriétés plutôt que les pavillons isolés en zone périurbaine. Et puis, parallèlement à ces outils réglementaires, on peut jouer sur des modulations de taxes. On peut aussi compenser partiellement l'artificialisation en transformant d'anciennes terres artificialisées qui ont été laissées à l'abandon en espaces naturels, permettre à la nature, à la biodiversité de reprendre ses droits.
Il assure que si rien n'est fait, ce sont 280 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui seront détruits d'ici 10 ans, soit l'équivalent de la superficie du Luxembourg.
La météo de demain, si vous habitez dans l'ouest, attendez-vous à vous réveiller sous la grisaille. Mais le reste de la journée s'annonce bien ensoleillé sur tout le pays. C'est la fin de ce journal préparé par Brice Garcia à la technique Audrey Guéline.